RFI, les 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
C'est le retour de Martin Guez pour le journal à la une. Martin, le roi d'Angleterre, Charles III, attendu ce lundi à Washington, une visite royale sous haute tension.
D'abord parce que le couple de l'Atlantique est en crise, c'est ce que nous verrons dans la longueur avec Julien Chavannes dans un instant. Mais aussi et surtout parce que cette visite survient dans un moment de crise, au lendemain de ces coups de feu tirés lors du gala annuel des correspondants de la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump n'était qu'à quelques mètres, il a été exfiltré en urgence et donne ce matin des détails sur le profil de l'assaillant. Attaque sans précédent au Mali menée par les djihadistes du JNIM et par les indépendantistes du FLA. Kidal, la grande ville du Nord, est tombée. Kati, la ville garnison près de Bamako, a été particulièrement ciblée ce week-end. Sadio Camara, le ministre malien de la Défense, y est mort ce samedi. François Mazet nous dira toutes les dernières informations qui nous parviennent du Mali. Nous appellerons ensuite Anita Fallet, déjà en place devant la maison d'arrêt de Nanterre, c'est tout près de Paris, alors que le personnel carcéral français lance aujourd'hui une grande action de blocage pour protester contre la surpopulation des prisons. Et puis enfin, Robert Lewandowski et de nombreuses stars polonaises se mobilisent contre le cancer. Et la cagnotte d'un streamer polonais explose. C'est la belle histoire du jour à retrouver en fin de journal.
Un suspect de 31 ans présenté ce matin devant la justice américaine.
Un homme originaire de Californie qui a traversé les États-Unis en train dans l'optique d'assassiner le président américain et des hauts responsables de son administration, selon Washington. Cela s'est passé hier lors du dîner annuel de l'association des correspondants de la Maison Blanche. L'assaillant a tiré avant de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait l'événement. Il a ensuite été appréhendé. Donald Trump a réagi sur la chaîne américaine CBS. Il a donné plus de détails sur le profil de l'assaillant.
J'ai lu son manifeste, il s'est radicalisé. C'était un chrétien, un croyant, puis il est devenu anti-chrétien. Il a beaucoup changé. À en juger par ce qu'il a écrit, il a traversé des moments très difficiles. Son frère s'est plaint de lui et je crois qu'il l'a dénoncé à la police. Sa sœur s'est également plainte de lui, sa famille était très inquiète. C'était sans doute un type assez dérangé.
Donald Trump, qui avait déjà été visé par une tentative d'assassinat lors d'un meeting en juillet 2024 et puis quelques mois plus tard sur son golf. Son prédécesseur Barack Obama a condamné l'incident d'hier. La violence n'a pas sa place dans notre démocratie, a-t-il réagi. Réaction aussi du roi Charles III, qui s'est dit soulagé que Donald Trump soit sain et sauf, alors que le souverain britannique débarque aujourd'hui à Washington avec son épouse Camilla. Une visite de 3 jours confirmée par le palais de Buckingham. Visite royale sous très haute sécurité qui sera marquée notamment par une allocution rarissime du roi d'Angleterre devant le Congrès américain. Gros plan sur cette venue ce matin avec Julien Chavannes. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Une venue sous très haute surveillance, on le disait, après cette fusillade. Elle intervient aussi dans un moment de crise entre Washington et Londres.
Oui, les deux alliés historiques ne se comprennent plus, ne s'entendent plus sur la guerre avec l'Iran notamment. La relation spéciale, comme on dit, entre les États-Unis et le Royaume-Uni ne serait plus si spéciale. Donald Trump n'aime tout simplement pas Keir Starmer. Il le décrit désormais comme un Winston Churchill de pacotille.
Et Julien, alors est-ce que cette visite du roi Charles peut changer les choses ?
Dit autrement, est-ce que le soft power de la couronne britannique peut rapprocher les deux pays ? Donald Trump, on le sait, il aime tout ce qui brille, le fast, la pompe. Il avait adoré son séjour au château de Windsor l'an dernier. God save the king, comme on dit. Mais est-ce que Charles pourra sauver le couple américano-britannique ? Il y aura en tout cas des gestes symboliques. Selon Aurélien Antoine, il est spécialiste du droit des institutions britanniques.
Alors l'amadouer, certainement. Ce sont des signes, comme souvent avec la monarchie britannique, on essaye d'influencer. C'est une espèce de soft power diplomatique qui est exercée, mais qui ne pourrait pas faire plier Donald Trump.
Et le roi Charles qui arrive aussi, Julien, en terrain miné avec les retombées de l'affaire Epstein.
Et l'implication de son frère, Andrew Mountbatten-Windsor, il est toujours visé par une enquête dans cette affaire. L'autre danger, c'est la personnalité même de Donald Trump. On connaît son côté imprévisible. À tout moment, il pourra entraîner Charles III sur des sujets glissants lors de ses fameuses conférences de presse où il est en roue libre.
Et cette visite royale qui fait des vagues au Royaume-Uni.
Oui, plusieurs élus ont carrément demandé qu'on l'annule. Ed Davey, par exemple, le chef des libéraux-démocrates devant Keir Starmer, c'était au Parlement il y a quelques jours.
Notre Premier ministre ne peut tout de même pas envoyer notre roi rencontrer un homme qui traite notre pays comme le ferait un chef mafieux qui rackette tout sur son passage.
Et près de la moitié des Britanniques seraient contre cette visite d'après un sondage. Alors la page de la relation spéciale américano-britannique est-elle déjà tournée ? Le chercheur Aurélien Antoine temporise.
Tourner la page, c'est peut-être une expression un peu forte. Ce qui est certain, c'est que les Britanniques, je crois avec les Espagnols, sont parmi les plus hostiles à la politique de Donald Trump. Cette visite ne va pas changer fondamentalement les choses, mais le côté un peu erratique de Donald Trump peut laisser penser que ce type de visite peut lui attirer temporairement les bonnes grâces des États-Unis vis-à-vis du Royaume-Uni. Mais rien n'est certain de ce point de vue.
Ouais, rien n'est certain. Charles est un homme fantastique, a dit le président américain à la BBC avant cette visite, en assurant Martin qu'il pourrait tout à fait réparer la relation spéciale entre les deux pays.
Il y a un peu de boulot quand même. Merci beaucoup, Julien Chavannes. Vous signez ce matin notre dossier de la rédaction.
Alors il est 7h05 à Bamako et en temps universel, le Mali se réveille d'un week-end de cauchemardesque.
Marqué par cette série d'attaques coordonnées des djihadistes du Jnim et des indépendantistes du FLA. Attaques menées au nord, à Kidal et à Gao, mais aussi dans le centre et dans le sud du pays, dans 7 localités distinctes. Hier, des coups de feu étaient encore entendus à Kati et on fait le point sur les derniers événements avec François Mazet du service Afrique de RFI. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Principale information, la confirmation de la mort du ministre malien de la Défense Sadio Camara tué samedi à Kati.
Oui, effectivement, ces attaques d'une ampleur inédite depuis 2012 ont coûté la vie au ministre de la Défense Sadio Camara, véritable numéro 2 du régime, tué samedi dans l'attaque au camion piégé qui a visé sa résidence au camp de Kati, le cœur du pouvoir, site le plus sécurisé du Mali. Au total, 7 localités ciblées, Kati, Bamako, Kona, Mopti, Sévaré, Gao et Kidal, a énuméré hier soir le chef d'état-major à la télévision. Oumar Diarra a dénoncé des attaques coordonnées, simultanées et complexes. Il a assuré que la riposte avait été à la hauteur, que plus de 200 terroristes avaient été tués. Mais l'armée malienne a perdu le contrôle de Kidal, la grande ville du Nord. Les mercenaires russes d'Africa Corps ont quitté la ville hier après 24 heures de siège de leur base et suite à une négociation avec les rebelles du FLA. Ce matin, c'est donc un calme précaire qui règne au Mali avec encore des incertitudes, notamment sur la situation du général Modibo Koné, un des 5 colonels putschistes de 2020, blessé samedi. Sur celle aussi d'Assimi Goïta, le président de la refondation, silencieux. silencieux jusque-là et invisible, exfiltré de Katy et mis en sécurité, selon les sources de RFI.
Merci beaucoup François Mazet, en direct de nos studios sur RFI. L'Union africaine, comme la CEDEAO, comme l'Union européenne, ont réagi pour condamner ces attaques. L'Alliance des États du Sahel a réagi aussi, tard hier soir, et dénonce un complot monstrueux, selon le communiqué signé du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au Burkina Faso. La situation au Mali, sur laquelle nous reviendrons dans un peu plus d'une heure, dans Appel sur l'actualité avec Namoury Dosso.
Et vous nous contactez dès maintenant au standard 33 9 693 693 70. La trêve au Liban, à nouveau bafouée, Martin. Le Hezbollah et Israël s'accusent mutuellement de violations.
Alors que 36 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, c'était le 17 avril dernier, dont 14 pour la seule journée d'hier. Des bombardements dans le sud du Liban qui ont notamment tué 2 femmes et 2 enfants, précise le ministère libanais de la Santé. Le Hezbollah, de son côté, a affirmé que ses combattants avaient pris pour cible des troupes et des positions israéliennes et a juré de poursuivre sa riposte. L'actualité au Moyen-Orient marque aussi ce matin par ce plan de relance en Syrie où le président Ahmed al-Shara tente de relancer les investissements étrangers pour reconstruire un pays ravagé par une décennie de guerre civile. Le chef de l'État syrien vient de passer 3 jours en visite dans les pays du Golfe, alors que de nombreux quartiers de Syrie, notamment de la capitale Damas, sont encore en ruine. Exemple à Yarmouk, où s'est rendu notre correspondant Mohamed Erami.
Des immeubles éventrés, des rues encore couvertes de gravats. À Yarmouk, au sud de Damas, la guerre est toujours visible à chaque coin de rue. Cet ancien camp palestinien a été presque entièrement détruit. Aujourd'hui, seule une minorité d'habitants est revenue, souvent sans service de base. Amina, 52 ans, marche entre les ruines. Foulard noir couvrant ses cheveux et le bas de son visage, elle vit sans logement depuis 2013.
Je vais d'un logement à l'autre depuis que ma maison a été détruite. Je me fais héberger gratuitement par soit ma cousine, ma sœur ou bien des amis, mais à chaque fois c'est temporaire.
Amina a perdu 5 enfants pendant la guerre. Depuis, elle survit en étant hébergée temporairement, incapable de payer un loyer même très bas. Pendant ce temps, Damas mise sur des investissements venus du Golfe, avec des projets de centres commerciaux ou de zones modernes. Mais pour beaucoup ici, ces projets sont hors de portée.
Moi, j'ai perdu mon père, mes parents et mes enfants. Mon logement n'est plus qu'un tas de ruines. Les centres commerciaux, c'est pas fait pour nous. Nous, on a besoin d'un toit, c'est la priorité.
À Yarmouk, la reconstruction reste largement à l'arrêt. Et pour ses habitants, les promesses d'investissement ressemblent encore à une réalité très lointaine. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Au Moyen-Orient, toujours, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est lui arrivé aujourd'hui en Russie, où il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Abbas Araghchi, qui a depuis la Russie accusé les États-Unis de l'échec des discussions au Pakistan. Donald Trump, qui avait annulé ce week-end l'envoi de ses émissaires à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers. Selon le média américain Axios, l'Iran a tout de même fait parvenir une nouvelle proposition aux États-Unis via le médiateur pakistanais. Proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre.
zarcillo fino que te dejara cuando se me fue y aquella tranza de palo andino que en otro tiempo junto pa' cuando se marchaba no intentó mirarla ni esbozó un quejío ni le dijo adiós entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Love.
chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Salut, main gauche recouvrant le poing droit. Fais preuve de retenue et le respect tu obtiendras. Dans cet endroit où la prière ne vient pas du pasteur, mais d'un ghetto blaster qui résonne dans tout le monastère. Où les masters de cérémonie se réunissent pour contrer la félonie, empêcher son hégémonie. Le premier exercice consiste à perdre la rythmique, que les battements du cœur se synchronisent. s'harmonise avec la rythmique. Puis vient le maniement du verbe, l'essence de la plume. Quand on avance dans la boue, cherchant l'absence de la cure. Comme la naissance de la lune, on s'est éloigné de la masse. Déposer notre marque pour évoluer en marge. Ensuite la marque de fabrique, la vitesse d'élocution, la richesse d'élocution, la finesse d'exécution, la manipulation du microphone comme catharsis. La passion de cet art noble agissant comme une catalyse. Enfin le travail de la forme et en priorité du fond, ne négligeant pas dans l'album l'originalité du flow. Pour que l'on renaisse de nos cendres à travers ces thèmes sombres, voilà tout le sens de la septième chambre. Rien à foutre du regard que les gens me portent, la façon dont tes potes m'estiment. Sorti de la septième chambre Shaolin, Brooklyn direct du Wild West. 14ème district, gars, tout ma ferme s'adresse. Yes. Pour finir, rédige, que dis-je, réflexion oblige. Méditation pointue, un instant, le temps se fige, jamais je néglige. Le contenu, ma vision sincère. Tu veux du bon son? Tu seras bien visère. Je prospère lentement, comme sur des sables mouvants. Où s'égarer, c'est s'enfoncer un peu plus à chaque mouvement. Je reste constant dans mes directives. Rock le mind, mes incisives. À chaque attaque, je récidive. Ouais. Je me focalise dans le silence. Analyse l'énergie, Taichi, libère les forces en présence. J'use de ma langue comme une lame, comme un feu émane de mon âme. Tel un jerrican, bouillonne mon crâne. J'crache, cogne, sans vergogne. Tel le Rastaman en son maximum de flow, j'donne. J'crache, cogne, sans vergogne. Tel le Rastaman en son maximum de flow, j'donne.